RFI, 7h30 à Paris, 6h30 à Dakar et en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Fabien Albert.
Barthélemy Diaz dans le viseur des autorités au Sénégal. En une semaine, l'opposant a perdu ses étiquettes de député et de maire de Dakar. Il conteste et annonce des recours. Nous serons à Dakar dès le début de ce journal. Les délais ne seront pas respectés en Guinée. La transition ne se terminera pas le 31 décembre. Déclaration du porte-parole du gouvernement qui indique que la refonte de l'État est en cours. Ce qui suscite l'ire de l'opposition qui a plusieurs fois annoncé qu'elle ne reconnaîtrait plus la légitimité de la junte passée la fin de l'année. Les Émirats Arabes Unis de nouveau pointés du doigt pour leur implication dans la guerre au Soudan, accusation portée par l'agence de presse Reuters qui a mené l'enquête. Abu Dhabi aurait envoyé via le Tchad des dizaines d'avions aux forces de soutien rapide du général Yemeti. Et puis Paul Kagame touche au but, lui qui depuis des mois milite pour un Grand Prix de Formule 1 au Rwanda, 30 ans après le dernier organisé sur le continent, Kigali officiellement candidat pour accueillir les meilleurs pilotes automobiles du monde.
Après son mandat de député, Barthélemy Diaz voit son mandat de maire révoqué.
Le maire de Dakar, ancien proche d'Ousmane Sonko, a été déclaré démissionnaire par les autorités sénégalaises. La semaine dernière, il avait déjà perdu son mandat de député. En cause, une condamnation pour homicide en 2017, confirmée en 2022 et 2023. Le bras de fer avec les autorités continue pour l'opposant qui annonce des recours. Les précisions de notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois.
Barthélemy Diaz avait prévu un point presse vendredi après-midi à la mairie de Dakar. Mais rapidement, la police est intervenue pour le déloger. Il a réussi à s'exprimer brièvement pendant que ses soutiens barricadaient la porte de la grande salle.
L'injustice ne prospérera pas dans ce pays. Je rappelle une fois de plus que je suis le maire de Dakar. Et personne ne peut me démettre de cette fonction tant que mon droit de recours n'est pas encore exercé. Donc ce que la police est en train de faire actuellement, ce n'est rien d'autre que d'exécuter une commande politique qui rêve d'une volonté manifeste de vouloir installer le Sénégal dans une dictature. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas un peuple de poltrons, nous sommes des citoyens, nous sommes d'honnêtes citoyens, nous sommes des responsables et nous sommes des élus du peuple.
La décision des autorités de lui retirer son mandat de maire est justifiée par une condamnation pour homicide qui date de 2017. La peine a été confirmée en appel en 2022, puis à la Cour suprême en 2023. Selon le code électoral, cela entraînerait donc son inéligibilité. À l'origine de la plainte, Beyna Gueye, un militant du parti PASTEF au pouvoir. Barthélemy Diaz avait déjà été déchu de son mandat de député le 6 décembre, moins d'un mois après son élection pour le même motif. Il dénonce un acharnement du pouvoir contre lui et a déposé un recours à la Cour d'appel. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
La transition ne s'arrêtera pas au 31 décembre en Guinée, malgré les engagements de la junte.
C'est ce qu'a déclaré Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement. Nous avons déjà abordé une autre phase qui est marquée dans l'article 2 de notre charte de la transition, c'est la refondation de l'État. On est déjà dans cette étape-là de la transition, a ajouté le porte-parole du gouvernement. Une déclaration qui fait bondir les partis d'opposition qui ces derniers mois ont plusieurs fois affirmé qu'ils ne reconnaîtraient plus la légitimité de la junte après la fin décembre, d'autant que le gouvernement n'a rien précisé sur le calendrier électoral. Écoutez Marc Yumbuno, membre du bureau national du RPG Arc-en-Ciel, joint au téléphone par Pierre Firsion.
C'est vraiment inquiétant, d'autant plus que ce soit le président de la transition dans son discours de nouvel an 2024, que ce soit au niveau du CNT, le président du CNT, au niveau du Premier ministre, il avait été dit que pour cette année-là, le référendum devrait être de mise et ça, les populations allaient partir au référendum pour voter oui ou non sur la nouvelle constitution. Mais qu'on oublie tous ces engagements et qu'on trouve une autre stratégie de semer la confusion, c'est vraiment inacceptable et nous disons qu'un rappel à l'ordre doit être fait.
Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement, n'a pas répondu aux sollicitations de RFI. À l'ouest du continent, la CEDEAO se réunit ce dimanche au Nigeria, communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, que veut quitter l'alliance des États du Sahel. Une décision irréversible, ont rappelé hier soir les ministres des Affaires étrangères du Niger, Burkina Faso et du Mali.
En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara nomme l'un de ses proches à ses côtés.
L'ancien ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcela Montano, devient un conseiller spécial du président au sein de son parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, alors que le chef de l'État ivoirien entretient le suspense sur sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025. Il continue d'organiser son parti en vue de cette échéance. Les précisions à Abidjan de Binta Diagne.
Je suis content et serein de reprendre mes fonctions dans l'appareil du parti. Joint par RFI, Marcel Amontano confirme sa nomination. Il dit avoir vu le président du RHDP en début de semaine, mais ne souhaite pour l'instant pas décliner sa feuille de route. Une chose est sûre, dit-il, il va contribuer à préparer la présidentielle de 2025. Marcel Amontano devrait notamment travailler avec le président du directoire du RHDP, Gilbert Koné-Cafana. Sa démission de son poste de ministre des Affaires étrangères en mars 2020 avait jeté un froid et surpris de nombreux militants. Il s'était en effet opposé à la désignation d'Amadou Gon Coulibaly comme candidat du parti, lui qui prenait à l'inverse l'idée de primaires internes. Mais la page semble tourner. En janvier 2022 déjà, sa nomination à la tête du Conseil de l'Entente marquait une réponse administrative à sa situation. Son retour aujourd'hui à un poste politique confirme une grande amitié entre Alassane Ouattara et Marcel Amontano, qui ont un long parcours commun, constate un responsable du parti. Bintadian Abidjan, RFI.
Les Émirats Arabes Unis à nouveau mis en cause dans la fourniture d'armes aux forces de soutien rapide au Soudan.
Selon une enquête menée par l'agence de presse Reuters, des douzaines d'avions en provenance des Émirats Arabes Unis ont atterri ces derniers mois à Amjaras, au Tchad. L'aéroport se trouve à 50 km de la frontière avec le Soudan. Il a souvent été cité comme étant utilisé pour des livraisons d'armes dans la région, Alexandra Branjon.
Selon Reuters, au moins 86 avions provenant des Émirats Arabes Unis ont atterri à Amjaras depuis le début de la guerre au Soudan, il y a 18 mois. L'agence de presse s'appuie sur l'analyse de données de vol ainsi que d'images satellites. Les Nations Unies soupçonnent les Émirats Arabes Unis d'utiliser cet aéroport d'Amjaras pour acheminer des armes à l'un des belligérants au Soudan, les forces de soutien rapide du général Emeti. Abu Dhabi a toujours nié ces accusations et affirme utiliser cet aéroport dans le nord du Tchad pour livrer de l'aide humanitaire à son hôpital de campagne dans la région. Rien ne permet de dire avec certitude quelle était la cargaison de ces 86 vols recensés par Reuters, principalement des avions cargo. Mais selon l'agence de presse, la moitié des vols ont été opérés par 4 compagnies aériennes basées au Kyrgyzstan et en Ukraine, déjà accusées par l'ONU de transport d'armes vers la Libye en violation d'un embargo de l'ONU. Ces nouvelles informations sont publiées alors que l'armée soudanaise reproche au Tchad de laisser transiter sur son territoire des armes à destination des paramilitaires soudanais, ce que N'Djamena a toujours démenti.
La Cour pénale internationale a mis en délibéré l'affaire concernant Ali Mohamed Ali Abdelrahman, un chef de milice janjaouide accusé par le procureur de la CPI de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre pour des faits qui auraient été commis lors de la crise du Darfour au début des années 2000. Des milices janjaouides de nouveau pointées du doigt à l'heure actuelle pour leur implication aux côtés des FSR dans la guerre qui déchire le Soudan depuis avril 2023. Au Libéria, le président de l'Assemblée nationale, Jonathan Fonati Kofa, est sous forte pression, contesté par un bloc majoritaire autoproclamé qui exige sa démission. Ce groupe a désigné son propre président et tient des sessions parallèles. Malgré cette fronde et le retrait de sa protection par l'État, laissant Kofa sans garde du corps, il refuse de céder et s'accroche à son poste, Christina Okello.
Je reste le seul président légitime de l'Assemblée, a déclaré vendredi Jonathan Fonati Kofa, affirmant que le retrait de sa sécurité ne fait que renforcer sa détermination à défendre la constitution libérienne. Pour cela, il s'est de nouveau tourné vers la Cour suprême, demandant qu'elle fasse respecter sa décision du 6 décembre, qui stipule qu'un minimum de 49 députés sur 73 est nécessaire pour engager une destitution. Or, les frondeurs n'en réunissent que 43. Malgré tout, ces derniers ont désigné leur propre président, s'appuyant sur un avis du ministre de la Justice. Ils accusent Jonathan Fonati Kofa de conflit d'intérêts et de mauvaise gestion, mais sans apporter de preuves concrètes. Cette crise a mis en lumière les fractures internes du parti d'opposition des CDC, dont Kofa est issu. Le ralliement du vice-président Thomas Fala au parti au pouvoir pour soutenir sa destitution a conduit à son expulsion et à l'intervention de l'ancien président George Weah. Sous le plan national, cette instabilité paralyse le Libéria. Le budget reste bloqué et la présence policière a été renforcée au Parlement après des incendies suspects et des affrontements entre élus.
Christina Okello. À Madagascar, le premier cyclone tropical intense de la saison nommé Chido a transité à 70 km des côtes du nord du pays hier en fin de journée. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes n'a pas recensé de victimes, mais Ils estiment que près de 20 000 personnes pourraient avoir été inondées ou contraintes de se déplacer principalement autour de la ville de Diego Suarez. Ce samedi, le cyclone poursuit sa trajectoire en direction de l'archipel des Comores. Alors qu'à Mayotte, où des rafales de vent jusqu'à 200 km par heure sont prévues, la population a été confinée. L'île est en alerte violette, le plus fort niveau de vigilance.
De la culture à présent, avec la 7e édition du festival Dakarcourt.
Festival qui offre une vitrine de choix sur la production panafricaine de courts-métrages. Un bilan de ce festival devenu un incontournable de la cinéphilie dakaroise, avec notre envoyée spéciale Elisabeth Le Quéré.
Dakarcourt, c'est 11 films en compétition représentant le Sénégal, le Togo, le Maroc ou encore la Tanzanie. Ce sont aussi des ateliers de formation, par exemple à la critique de cinéma, et des tables rondes consacrées cette année au rapport entre musique et 7e art, ou encore à la préservation du patrimoine, sujet brûlant s'il en est, au pays de Samben Ousmane et de Djibril Diop Mambéty. Car il y a un appétit de cinéma énorme au Sénégal, et tous ces films témoignent de l'envie des jeunes générations d'inverser le regard, comme l'explique Maguette Betty Danfara, la directrice du festival.
Moi, ce que je ressens, c'est que cette jeune génération, mais même les générations avant nous, hein, ce qu'elles veulent, c'est être représentées, mais pas que leurs histoires soient racontées par des autres. Donc cette année, par exemple, sont abordés des thèmes comme l'immigration, les enfants des rues, mais pas que, parce qu'on parle aussi d'histoires d'amour, on parle de comédie, d'histoires romantiques, mais aussi de thrillers, films de frissons.
Cette année, le festival a reçu plus de 500 projets, et s'il se termine ce soir à Dakar, il va se prolonger tout au long de l'année 2025 dans les régions du Sénégal et au-delà, en France et même au Brésil. Elisabeth Le Quéré, Dakar, RFI.
Le festival de Dakarcourt, nous en reparlerons ce samedi dans tous les cinémas du monde. Pardon. Ce sera à 15h30, temps universel.
Et il sera alors 16h30 à Kigali, au Rwanda, le pays qui veut accueillir un grand prix de Formule 1 sur le continent.
30 ans après, le Rwanda a accueilli hier l'Assemblée Générale et la cérémonie de remise des prix de la FIA, la Fédération Internationale Automobile. Une première sur le continent, ravivant l'espoir d'un retour de la Formule 1 30 ans après, donc. C'est le rêve d'un homme, Paul Kagame. Le président rwandais en a d'ailleurs profité pour annoncer la candidature officielle de Kigali à l'organisation d'un Grand Prix devant les plus grands responsables et les plus grands champions du sport automobile, Lucie Mouillot.
C'est un premier déplacement à Kigali pour de nombreux champions de Formule 1, mais peut-être pas le dernier, se réjouit Charles Leclerc, pilote pour l'écurie Ferrari.
Ce serait très bien de pouvoir courir ici. C'est un long processus, ce n'est que le début, mais c'est très excitant de voir que le Rwanda essaye d'accueillir une course de F1 ici. Il y a beaucoup de fans en Afrique et ce serait important d'y avoir une course.
Le retour d'un Grand Prix sur le continent est discuté depuis de nombreuses années. La volonté assumée de Kigali d'accueillir l'organisation de la Formule 1 est une opportunité, selon Mohamed Ben Soulayem, président de la FIA, la Fédération Internationale Automobile.
C'est très bien, et avec la Formule 1, qui sait ? Je pense que c'est possible. Il faut commencer par une candidature. Le Rwanda a tout notre soutien parce que ça envoie un message à l'Afrique. Comment pouvons-nous avoir un championnat du monde de F1 sans l'Afrique ? Nous devons l'avoir parmi nous. We have
to have Africa. Le continent est boudé par la F1 depuis plus de 30 ans et le dernier Grand Prix en Afrique du Sud, également candidat pour accueillir de nouveau sur son sol la plus prestigieuse des compétitions automobiles. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Et ainsi s'achève cette édition RFI. Matin continue tout de suite avec vous, Julien Coquelrouet.
Merci Fabien Albert. À tout à l'heure pour un nouveau journal.